Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un continent qui n'est pas bien connu en France, le continent de l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est le continent le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants. Comme vous le savez, le pouvoir en Inde est aujourd'hui tenu par Narendra Modi, un homme politique d'extrême droite, qui assure son idéologie de domination hindouiste, idéologie dont les musulmans sont les premières victimes d'ailleurs. Narendra Modi prépare sa réélection en 1924. Et l'on apprend dans un article de France Info que Narendra Modi nourrit le culte de la personnalité. Alors, on en donne bien sûr un exemple. Il a profité de la Coupe du Monde de cricket, le sport d'ailleurs qui est le plus pratiqué, le plus populaire en Inde. Coupe du Monde de cricket qui se déroulait dans sa ville natale d'Ahmedabad pour défiler sur un char comme un empereur romain dans un stade de 130 000 places, stade qui d'ailleurs porte son nom comme l'avait fait de son vivant Benito Mussolini et Saddam Hussein. Alors pour mieux connaître la situation actuelle en Inde, j'ai suivi la visioconférence organisée le 29 mars 2023 par les amis du monde diplomatique. Ingrid Terwad, journaliste responsable de l'Asie du Sud au sein de la rédaction du journal Le Courrier International, est intervenue sur le thème « Une idéologie suprémaciste en expansion, le nationalisme hindou ». Son intervention était présentée d'ailleurs avec ce texte « Jouant l'Inde contre la Chine, les dirigeants occidentaux font les yeux doux au Premier ministre Narendra Modi, transformé en parangon de démocratie ». Pourtant, Modi s'appuie sur une idéologie hindouiste extrémiste, l'Hindutva, qui incite à la haine religieuse dans le pays et à l'extérieur du pays. À bas bruit, son parti et ses alliés ont bâti une organisation mondiale aux multiples ramifications. Alors écoutons Ingrid Terwad.
Le nationalisme hindou, c'est pas du tout quelque chose de récent. C'est quelque chose de très ancien, qui date du 19e siècle et puis qui a évolué. Et dans sa version actuelle, le nationalisme hindou existe depuis 100 ans à peu près. Hein. Il a été formalisé, c'est vraiment construit depuis les années 1920. Alors, pourquoi on en parle, pourquoi on s'y intéresse? Parce que le nationalisme hindou, c'est l'idéologie du parti au pouvoir et du premier ministre qui a été élu pour la première fois à la tête du pays en 2014, le 26 mai 2014, et pour un mandat de 5 ans, et qui a été réélu en 2019 pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est pas la première fois qu'il est au pouvoir. Il a été longtemps au pouvoir à la tête d'un État, puisque l'Inde est une fédération. C'était l'État du Gujarat. Mais c'est voilà, depuis 2014, donc depuis presque 9 ans maintenant, il est à la tête de l'Inde, la plus, qu'on appelle communément, qu'on aime appeler la plus grande démocratie du monde, qui est quasiment le pays le plus peuplé du monde. Donc, on s'intéresse à l'idéologie du gouvernement de ce pays. C'est assez, au fond, logique. Et c'est logique et c'est aussi tout à fait paradoxal parce que, justement, on aime rappeler que l'Inde n'est pas la Chine et on aime opposer l'Inde à la Chine. Pourquoi ? Parce que ce sont deux grands pays asiatiques qui sont relativement méconnus et où, en même temps, il y a beaucoup de similarités, poids démographique par exemple, taille, etc. Mais aussi, ce sont des grands marchés pour nos entreprises. Et on place souvent l'Inde en opposition avec la Chine en disant que voilà, la Chine n'est pas une démocratie, l'Inde est une démocratie. Il y a des tas d'oppositions comme ça sur ces deux pays. Et on dit aussi que la Chine est une menace, ou en tout cas a des visions hégémoniques, à la fois sur le plan commercial et sur le plan militaire stratégique, tandis que l'Inde est un allié, à la fois sur le plan commercial et sur le plan militaire et stratégique. Donc on fait par exemple des manœuvres conjointes, les gouvernements français, américains notamment, font des manœuvres militaires conjointes avec l'Inde, dans l'océan Indien, etc., par exemple. Donc l'Inde est un grand allié, et donc on s'intéresse, donc je vous le disais, à l'idéologie qui est celle du régime actuel, qui n'est pas l'idéologie de l'Inde, mais qui est l'idéologie portée par le gouvernement et par Narendra Modi, qui est à sa tête. Alors, qu'est-ce que c'est que le nationalisme hindou? Qu'est-ce que c'est que ce nationalisme hindou? Ce nationalisme hindou se base sur une notion, une notion clé en fait. C'est celle de l'hindutva. Hindutva. Hindutva, ça peut se traduire en français par hindouité. C'est au sens littéral le fait d'être hindou, le fait de se sentir hindou, d'avoir une appartenance à l'hindouisme. Hindouisme étant compris pas seulement comme un ensemble de rites ou de rituels ou de croyances, mais par une culture, des valeurs, etc. Ça, c'est au sens le plus littéral. Mais en réalité, ça n'est pas exactement ça, l'hindutva. L'hindutva, c'est un concept politique avant tout. C'est pas un concept culturel. C'est pas le même genre d'adjectif que si on disait judéo-chrétien, par exemple. C'est vraiment un terme, un concept politique, qui est un néologisme d'ailleurs, hein, qui ne date pas des temps, de temps immémoriaux, mais qui a été inventé en 1923 par un homme politique, un intellectuel et un homme politique qui s'appelait Savarkar, dans un livre qui porte ce nom, Hindutva. Hindutva qui est hindou. Et cette idéologie conçoit l'Inde comme étant un pays hindou, et un pays seulement hindou, où un Indien égale un hindou, et la réciproque étant vraie aussi, un hindou est égal à un Indien. Ce qui fait que tous les gens qui ne sont pas hindous, et qui sont indiens pourtant de nationalité, sont perçus comme étant illégitimes d'une certaine façon, ou devant être bien maintenus dans un statut de seconde classe. Et dans le même temps, c'est le corollaire, tous les hindous à l'étranger sont imaginer comme faisant partie d'une grande communauté indienne et seraient les ambassadeurs de l'Inde d'une certaine façon. Cette Inde hindoue, c'est une Inde de l'exclusion des minorités, donc des chrétiens, des bouddhistes, mais aussi et principalement des musulmans, qui constituent la plus grosse minorité religieuses du pays. On parle de 13 à 14% de la population sur 1,4 milliard. Vous voyez que ça fait de l'Inde le deuxième pays musulman du monde en termes de population, en termes de chiffres absolus. Donc c'est une idéologie d'exclusion, mais c'est aussi une idéologie d'inclusion, puisque on va essayer d'inclure dans l'Hindutva des populations hindoues à l'étranger, qui peuvent être par exemple britanniques, américains, français ou autres. Voilà l'Hindutva. Alors, l'Hindutva, ce terme a été inventé en 1923, et deux ans plus tard, s'est créé dans la mouvance Hindutva une milice. Cette milice, elle s'appelle, si vous lisez des choses là-dessus dans la presse française ou dans la presse anglophone, indienne, américaine, anglaise, etc., vous trouverez l'acronyme RSS. RSS, c'est un acronyme parce que le nom en entier est très long, c'est Rashtriya Swayamsevak Sangh, qui veut dire Association des volontaires nationaux. C'est ça le nom de la milice. Et si vous regardez sur Internet, et vous regardez comme source, c'est l'idéal d'ailleurs, hein, le RSS lui-même, vous verrez des photos. Et vous verrez qu'il s'agit de cette milice, elle organise des grands rassemblements, donc de miliciens qui sont en short kaki, en chemise blanche, et qui font un salut qui ressemble beaucoup au salut mussolinien, en fait, au saluiste. En fait, cette milice, elle s'est créée en se donnant pour modèle les faisceaux mussoliniens. Il y a une vraie proximité historique que l'on trouve dans les documents même du RSS, entre le fascisme européen, et italien et allemand, et l'Hindutva indienne. Cette milice, donc, qui va fêter ses 100 ans dans 2 ans, cette milice, elle s'est dotée au fur et à mesure des années, des décennies, de différentes branches. Alors, en fait, pour essaimer un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous avez une branche étudiante, vous avez une maison d'édition, vous avez une branche paysanne, une branche pour les femmes, une branche pour à peu près tout, en fait, hein, pour les tribaux, les populations tribales, pour absolument tout, pour le clergé, etc., etc., etc. Et dans les années 40, s'est constituée la première branche du RSS à l'étranger. Et au Kenya. Et petit à petit, le RSS, avec cette structure très pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a le RSS en haut et ensuite toutes les organisations affiliées, s'est dupliqué à l'étranger. Donc à l'étranger, vous avez une organisation un peu mère qui s'appelle HSS. Le R initial est remplacé par H. Le R en hindi, c'est Rashtriya, c'est national. Le H, c'est hindou. Parce qu'évidemment, à l'étranger, on ne peut pas se dire national. Donc le HSS, c'est-à-dire le miroir du RSS à l'étranger, est en haut avec plein de filiales et d'organisations miroirs, pareil, dans tous les secteurs d'activité à l'étranger, partout en fait, où il y a une diaspora indienne. La diaspora indienne, c'est 30 à 50 millions de personnes dans 110 pays. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de ramifications comme ça à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc ça s'est créé dans les années 40, mais c'est resté assez peu développé pendant plusieurs longues décennies. Et ces associations à l'étranger se sont beaucoup développées à partir de 1975. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1975? Plein de facteurs. D'abord, il y avait une diaspora indienne plus importante, notamment avec des travailleurs qualifiés, des ingénieurs, etc., des cadres, qui pouvaient être des relais très actifs auprès des décideurs de leur pays d'installation. Et puis surtout, en Inde, il y a eu la promulgation de l'état d'urgence par Indira Gandhi. Cette suspension pendant 2 ans de la démocratie indienne a valu à un grand nombre d'opposants, de nationalistes hindous, d'être inquiétés, voire d'être mis en prison. Et à ce moment-là, le RSS et les nationalistes hindous ont vraiment compté sur leurs filiales à l'étranger pour se développer, pour avoir de l'argent aussi. Et ça a continué. Donc ça fait plus de 40 ans maintenant, presque 50 ans, que ces filiales à l'étranger se développent très fortement. Et aujourd'hui, depuis 30 ans maintenant, hein, depuis le début des années 90, moment où le nationalisme hindou en Inde a vraiment obtenu des grandes victoires à la fois symboliques et électorales, à partir des années 90, donc la diaspora indienne via ces différentes associations à l'étranger, a largement contribué à financer la montée du développement du nationalisme hindou en Inde. Et d'ailleurs, Narendra Modi compte beaucoup d'admirateurs dans la diaspora et c'est une relation assez symbiotique, on pourrait dire, aujourd'hui.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et nous sommes aujourd'hui plongés dans l'actualité de l'Inde mais aussi dans l'ambiance musicale de l'Inde. Le morceau que vous venez d'entendre était joué avec la sitar indienne d'Anuska Shankar. Anuska Shankar est la fille du célèbre musicien indien Ravi Shankar. Elle est née à Londres en 1981 et elle a accompagné son père dans de nombreuses tournées à travers le monde. Elle se produit pour la première fois en public à New Delhi à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui vedette internationale, elle est aussi une artiste engagée, notamment dans le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en Inde. Et nous reprenons maintenant l'écoute de la journaliste Ingrid Terwart, qui, au cours d'une visioconférence organisée par les amis du Bond diplomatique, nous parle de la milice indienne ASS qui s'est développée non seulement en Inde, mais aussi dans la diaspora indienne à l'étranger.
Quand on est à l'étranger, il faut être assez vigilant. Alors, soit on est soi-même d'origine indienne et on est partisan du nationalisme hindou et on donne de l'argent. Là, il y a une certaine logique. Mais il peut aussi arriver qu'on se retrouve à financer le nationalisme hindou en Inde sans vraiment savoir, sans vraiment être conscient de à qui on donne son argent. Parce qu'il s'agit d'associations qui se présentent en général comme des associations à but non lucratif et de nature culturelle, voire éducative. Parce qu'il est évidemment interdit, dans la plupart des grandes démocraties occidentales, de financer des partis politiques à l'étranger ouvertement, enfin comme ça, sans... Voilà. Donc, ces associations qui servent de courroie de transmission pour le financement de l'Hindutva en Inde, elles prennent la forme d'associations à but éducatif, donc c'est pour financer les écoles en Inde, financer aussi de l'aide humanitaire quand il y a des catastrophes, typiquement, et aussi tout ce qui peut être activité culturelle type yoga. Donc tout ça, en plus, c'est complètement en phase avec les valeurs humanistes, éducation, développement, développement personnel, etc. Donc c'est assez facile de se faire piéger. Donc il faut être très vigilant, il faut faire ses recherches et voir qui finalement touche l'argent, quel type d'école. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, c'est facile de se faire piéger. Voilà. Que vous dire de plus? Je crois que c'est déjà un bon petit tour. Et oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que cette Hindutva, ça n'est pas une idéologie comme une autre. On ne peut pas comparer ça à la démocratie chrétienne, si vous voulez. Il y a vraiment une composante violente dans l'Hindutva. Il s'agit vraiment de disqualifier une grande partie, 15% de la population, grosso modo. Et ça se traduit par des lynchages, par de la discrimination, ça va de la discrimination au lynchage et au meurtre, hein, grosso modo, de musulmans, mais aussi d'opposants. Parce que l'Hindutva n'est pas tout à fait soluble dans la démocratie, pour être tout à fait exact. Et d'ailleurs, on a bien du mal à définir la démocratie indienne actuellement. Parce qu'on dit la plus grande démocratie du monde, et quel type de démocratie? C'est une démocratie électorale. Sur le plan purement fonctionnel, c'est vrai, mais le leader de l'opposition, par exemple, est en train d'être muselé d'une façon complètement inédite dans un grand pays démocratique. La liberté de la presse est très menacée en Inde. Donc on peut parler d'autoritarisme électoral, comme le fait Christophe Jaffrelot dans son livre « L'Inde de Modi », par exemple. On peut parler de démocrature, c'est ce néologisme pour évoquer des régimes élus mais dictatoriaux. Voilà, on doit repenser en tout cas notre vision de l'Inde comme d'une grande démocratie. Et c'est d'autant plus important que l'Inde va accueillir en septembre de cette année le G20 et que avant ça même, le 14 juillet 2023, donc dans quelques mois, l'Inde va dérouler le tapis rouge à Narendra Modi en tant qu'invité d'honneur du 14 juillet, parce que tout simplement, en fait, on s'assoit sur les droits de l'homme et on parle de valeurs partagées. En fait, elles ne sont pas très partagées. Ce qui est partagé, c'est l'envie de signer des contrats. Donc, c'est pour ça, c'est pour ces raisons, c'est parce que l'Inde est un allié important sur le plan commercial et stratégique qu'il faut, en tout cas, être lucide sur les intentions du régime, sur la nature réelle du régime et sur la limite du discours des valeurs partagées.
Vous venez d'entendre un autre morceau de musique indienne interprété à la sitar par Anushka Sankar. C'est d'ailleurs Anushka Sankar qui nous accompagne dans cette émission sur l'Inde aujourd'hui. La journaliste Lou-Ève Popper a fait un article dans Le Monde diplomatique sur les heurts entre les communautés hindoues et musulmanes, heurts qui ont récemment secoué Leicester en Angleterre. Elle a expliqué l'influence de l'ethno-nationalisme hindou en Angleterre, qui explique d'ailleurs en partie la montée des violences. Ingrid Terwan complète cette analyse sur les violences justement qui se produisent à l'extérieur de l'Inde.
Au sujet de Leicester, c'est pas du tout un hasard si ces heurts se sont produits à Leicester et pas à Manchester par exemple ou à Birmingham, qui sont pas très loin et qui sont aussi des villes très fortement sud-asiatiques. Leicester, c'est l'endroit où est le QG du HSS dont je vous ai parlé, l'organisation du RSS à l'étranger. C'est le premier endroit où le RSS à l'étranger a eu un QG. Ça date de 1966. Donc c'est pas du tout un hasard, ils sont très très implantés là depuis très longtemps. Et la BBC a fait une étude assez intéressante. Il y a eu une campagne vraiment de en ligne, sur Twitter notamment, sur d'autres réseaux sociaux aussi, mais beaucoup sur Twitter, pour attiser les tensions et pour dire que les hindous étaient attaqués avec des hashtags « Hindus under attack », etc. Pour inciter aussi les gens à aller attaquer des commerces musulmans. Et la BBC a dénombré 200 000 tweets de cette nature, avec ce type de hashtag, il a réussi à les géolocaliser et à montrer que, en fait, tous ces tweets provenaient de comptes basés en Inde. Beaucoup de trolls qui viennent de fermes à trolls, en fait, d'endroits où on génère des messages comme ça, de haine. Et tout ça vient d'Inde et est orchestré de façon à grande échelle, quoi, de façon professionnelle. Et ça, tout laisse à penser entre le fait que Leicester est la ville historique du nationalisme hindou à l'étranger et l'ampleur de la mobilisation en ligne, tout laisse à penser qu'il y a derrière sans doute soit une récupération, soit carrément une orchestration par les nationalistes hindous. En fait, ce qui est intéressant quand on regarde la composition ethnique d'un pays à forte immigration, et quand on regarde notamment la différence entre hindous musulmans ou entre personnes d'origine indienne, pakistanaise, bangladeshi, non pas que ça recoupe hindous musulmans d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est que les Indiens, d'une part, tous, hein, musulmans et hindous, et particulièrement en leur sein les hindous, immigrés ou de deuxième, troisième génération, se présentent au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, hein, pour prendre les trois gros pays anglo-saxons, comme une minorité modèle. Et ils ont un revenu médian bien plus important que les autres communautés asiatiques, sud-asiatiques et asiatiques. Par exemple, aux États-Unis, les personnes d'origine indienne ont un revenu médian bien plus important que les personnes d'origine chinoise, coréenne, etc. Et en queue de peloton, vous avez les personnes venant du Bangladesh, du Népal et tout. Et en fait, pendant des années, au tout début en fait de leur histoire migratoire, ces gens étaient plutôt attirés par les travaillistes, ou par la gauche si vous voulez, ou par les démocrates. Et avec l'enrichissement, tout simplement, hein, et l'ascension sociale et l'accès à la bourgeoisie, grosso modo, hein, voire à la grande bourgeoisie, eh bien, ça s'est rééquilibré et vous avez plus de conservateurs. Et c'est frappant parce que c'est pas du tout pour dire que tous les Indiens et tous les hindous indiens, enfin personnes hindoues d'origine indienne sont conservatrices, pas du tout le cas, mais il y a une plus forte proportion chez eux que dans d'autres minorités, tout simplement parce qu'ils ont vraiment bien réussi. Et c'est aussi on peut voir ça comme il y a deux lectures possibles, voir ça comme un signe d'une forme de manque de mémoire ou de trahison sociale, un peu si on veut, mais on peut aussi voir ça comme le signe d'une intégration, finalement, d'une réussite. C'est-à-dire que si vous avez dans la communauté la moitié des gens qui sont conservateurs et la moitié des gens qui sont travaillistes, ou la moitié de gauche et la moitié de droite, ça veut dire qu'il y a une normalisation et une intégration. Et donc ça, c'est plutôt un bon signe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de conservateurs chez les gens plus riches, chez les gens plus pauvres. Et du coup, il y a beaucoup plus de conservateurs, de gens de droite, chez les personnes hindoues d'origine indienne que chez les autres.
Pendant cette visioconférence sur l'actualité en Inde, organisée par les Amis du Monde Diplomatique, un intervenant a demandé à la journaliste Ingrid Terwatt si les castes sont toujours d'actualité en Inde.
Si, c'est toujours d'actualité. C'est marrant, c'est vraiment très, très lié à la question des castes, à l'image qu'on a de l'Inde à l'extérieur. Et à raison, à juste titre. Alors, les castes sont toujours d'actualité et le seront malheureusement toujours dans 20 ans, 30 ans ou sans doute 100 ans. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses à en dire. Mais pour essayer de répondre de façon concise et simple, l'Inde n'interdit pas la caste. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire. C'est juste faux. L'Inde n'interdit pas. En revanche, la constitution indienne, qui a été promulguée en janvier 1950, interdit la discrimination de castes. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que les castes, au fond, perdurent. Ce qui est interdit, c'est d'utiliser la caste pour discriminer pour l'emploi, l'accès au logement ou autre. En fait, il y a en Inde une politique de discrimination positive, on dit affirmative action, qui existe depuis très longtemps, qui existe au niveau local depuis le 19e siècle et qui a perduré avec l'indépendance et qui s'est développée encore depuis une trentaine d'années, hein, depuis 1991 exactement. Donc ça s'est développé. Il y a donc cette affirmative action qui permet à certaines catégories, en fonction de leur caste, à certaines castes, d'avoir des quotas, en fait, des places réservées, notamment dans les universités, dans l'éducation supérieure, mais aussi en termes de représentation politique. Donc finalement, ça c'est venu renforcer l'appartenance de caste et recomposer aussi l'appartenance de caste, parce que parfois on peut du coup vouloir se réclamer d'une caste peut-être plus basse qu'on l'aurait fait sinon, pour obtenir des avantages de discrimination positive. Bref, donc la caste perdure, la caste est un facteur politique, on vote en Inde en fonction de sa caste, en très grande partie, de sa caste et de sa communauté, il s'agit de deux choses complémentaires, sa caste, sa communauté, sa religion, bien sûr. Donc, et puis il suffit pour se convaincre, parce que vous aurez beaucoup de nationalistes indiens, plus hindous et indiens, qui vous diront non, ça n'existe plus, et c'est faux. Et il y a une façon très très simple, sans être politologue ou journaliste ou spécialiste, machin, de le voir, c'est d'ouvrir en Inde les annonces matrimoniales. Ça apparaît le dimanche dans les journaux, vous pouvez les voir en ligne, et vous verrez que tout ça est clair. Donc on voit bien que, quoi qu'on en dise, on se marie au sein de sa caste, et toutes les analyses aussi montrent qu'on vote selon sa caste. Voilà.
There's a hole where he used to be. We were meant to be solid, a puff of smoke, a mystery. Everything left but his wallet. Suffragettes turning their graves. He thought real life was a holiday, so I'm supposed to be grateful. He left behind his wallet. because he used his wallet. The phone call stopped, he disappeared. I thought we were solid. No husband, no father, how I feel. Everything left but his wallet.
J'en profite pour préciser une question de Bernard qui, en fait, suite à la visite donc de Maudy le 14 juillet, si j'ai bien compris, donc il y a des intérêts commerciaux dont vous avez parlé, et tout particulièrement visiblement dans l'armement.
Oui,
le bâtiment, j'imagine le génie, enfin tout ce qui est gros. Bouygues et tout ça, enfin tout, est-ce que vous avez l'infrastructure, c'est les grands BTP, quoi.
Non, pas forcément BTP, les routes, l'assainissement de l'eau. Il y a une quinzaine d'années, Veolia avait gagné comme ça un très gros contrat. Alors ça peut se faire de région à région, de municipalité à municipalité. On a une forte coopération décentralisée avec l'Inde. Mais puis il y a aussi des très très gros contrats. Alors on a déjà vendu des Rafales à l'Inde. Là, l'Inde envisage d'en acheter de nouveaux. Il y a aussi EDF qui est sur le coup pour vendre, Engie pour vendre des EPR à l'Inde, qui veut assurer une transition énergétique, être un pays vert, etc., qui a des très très gros besoins en termes de fourniture énergétique. Air India a fait des très grosses commandes à Airbus et à Boeing, donc il y a aussi toute la sous-traitance et puis il y a ces contrats en eux-mêmes, même si Airbus n'est pas uniquement français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a énormément de contrats à clé. Et puis oui, des très gros contrats de défense et des contrats sensibles sur des questions sensibles comme le nucléaire. Et l'Inde est un marché énorme pour nous. Et c'est bien pour ça qu'on déroule le tapis rouge. Sinon, ça n'aurait pas lieu.
L'Inde a aujourd'hui plus que jamais un désir de puissance militaire. Les tensions entre l'Inde et la Chine et entre l'Inde et le Pakistan servent aujourd'hui de justification au pouvoir. L'Inde est donc devenue un véritable Eldorado pour les marchands d'armes, et la France, bien sûr, en profite. La France est en effet devenue le deuxième fournisseur d'armes de l'Inde après la Russie, selon le rapport de l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm, le CIPRI. Mitterrand, Chirac, Macron, tous ont essayé de vendre le maximum d'armes à l'Inde. L'Inde, tout le monde le sait, est une puissance nucléaire, qui n'a pas signé d'ailleurs le traité de non-prolifération nucléaire. Cela n'a pas empêché la France, avec le concours d'Areva, de continuer à installer des centrales EPR dans ce pays. Et l'on apprend qu'en 2023, avant le voyage de Macron en Inde, de nouveaux pourparlers ont eu lieu pour installer encore de nouvelles centrales EPR. Alors que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de la non-violence de Gandhi? La journaliste Ingrid Terwad nous répond.
Alors, Gandhi n'est pas l'Inde, et l'Inde actuelle n'est certainement plus l'Inde de Gandhi, déjà pour commencer. Alors, cette idée, ce lien entre l'Inde et la non-violence, il s'explique très bien par Gandhi, etc., évidemment. Alors, déjà, je voudrais répondre à votre observation, question, en deux temps, si vous me le permettez. D'abord sur la non-violence elle-même, le concept de non-violence, et ensuite sur ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, la non-violence, ce qu'on traduit par non-violence, c'est ahimsa. Ça veut dire exactement ça. Renoncement à la violence. Le A est privatif, et ahimsa, c'est la violence. Et en fait, quand on étudie l'action gandhienne qui a réussi à mettre fin au colonialisme britannique en Inde, qui a été l'exemple ensuite pour Martin Luther King et pour Nelson Mandela, c'est incroyable comme méthode, cette non-violence. Mais en réalité, est-ce si non-violent que ça? En fait, au cœur de l'action gandhienne, il y a de la violence. Ça serait mal à comprendre de penser que c'est un refus de la violence. C'est un refus de la violence envers les autres, de la violence physique envers les autres. C'est-à-dire qu'on va s'infliger à soi-même une grande violence et on va rendre ça public pour infliger à son adversaire le spectacle de la violence qu'on se fait subir en son nom. Vous voyez? Et ça, c'est typiquement la grève de la faim. Ou alors, donc, c'est-à-dire qu'on met en scène sa dénutrition puis potentiellement sa mort, et on la met en scène, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais une grève de la faim tout seul chez soi. On fait une grève de la faim en le faisant savoir, idéalement avec des caméras, hein, c'est ce que faisait Gandhi, et des photographes. On le fait savoir et il faut, si possible, avoir des images du corps amaigri, etc., pour créer une forme de terreur chez l'autre, une forme de chantage affectif, si on veut, pour créer ce rapport de force. Vous avez les sit-in avec les gens qui se font matraquer. Il n'y a pas qu'à la grève de faim, il y a des tas de choses. Donc, la violence, déjà, est au cœur de la pensée gandhienne, au cœur de la non-violence. C'est simplement pas taper sur les autres. C'est se laisser taper dessus pour créer un espèce de choc, en fait. Et ça marche. Mais donc voilà, comme registre politique, c'est assez particulier et il ne faut pas qu'on pense, parce qu'il y a ce terme non-violence, que c'est vraiment non-violent. C'est pas dénué de violence du tout. Alors, cet héritage gandhien aujourd'hui, il est très très mis à mal par le RSS. Le RSS a un parti politique. Le parti politique, c'est le BJP, qui est le parti de Narendra Modi. Donc toute cette mouvance hindoutva, nationaliste hindoute dont je vous ai parlé n'aime pas beaucoup Gandhi. Pour plein de raisons, mais c'est un partisan du RSS qui a assassiné Gandhi. On lui voue aujourd'hui un culte, comme on voue un culte à Hitler, par exemple. Bref, toujours est-il que ce concept de non-violence, ce concept de résistance passive, etc., est complètement contraire à l'idée que les nationalistes hindous se font de une forme de virilisme indien, l'homme nouveau, l'homme fort qui doit se battre, etc. Les statues de Gandhi ont souvent été déboulonnées en Inde. C'est assez terrible, hein, mais voilà. Par ailleurs, l'Inde, je vois la question, est-ce qu'il y a une montée du militarisme? Il y a l'Inde est un pays qui fait face à des menaces extérieures, des menaces pour sa sécurité. Qui sont multiples, hein, qui peuvent être des menaces en termes de sécurité intérieure à cause du terrorisme, tout simplement, mais aussi des menaces d'ordre plus classique, guerre, notamment affrontement avec la Chine. Il y a eu des guerres depuis l'indépendance de l'Inde, plusieurs, avec le Pakistan et puis aussi avec la Chine. Donc l'Inde a besoin d'avoir une armée conséquente et il y a chaque année des affrontements, notamment à la frontière chinoise. L'armée indienne est importante numériquement, mais elle est d'une certaine façon sous-équipée, en tout cas avec un équipement vieillissant. Jusque dans les années, début des années 90, l'Inde, qui était non alignée, mais quand même plutôt alignée avec l'Union soviétique d'une certaine façon, était contre la Chine, était achetait largement ses équipements militaires à l'URSS. Et puis, avec la chute de l'URSS, les gouvernements indiens successifs ont voulu diversifier les sources d'approvisionnement. Et donc, les Indiens ont acheté des armes, et pas que des, je vous parle pas que des chars et des avions, mais il y a aussi tout des tas de systèmes stratégiques, des tas de systèmes de reconnaissance, etc. À grosso modo, alors il y a eu la France avec les Rafales, les États-Unis beaucoup et Israël. Et puis toujours la Russie. Hein. Mais il a fallu voilà diversifier et puis moderniser l'armée parce que ces équipements soviétiques ils sont plus du tout à la page. Donc d'où maintenant aujourd'hui ces gros contrats en perspective pour moderniser l'armée.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu un morceau de musique indienne, toujours d'Anushka Shankar. Et nous continuons à suivre la visioconférence organisée par les Amis du Monde Diplomatique avec la journaliste Ingrid Terwatt. Ingrid Terwatt s'intéresse maintenant à Umsa Yousaf, d'origine indienne, chef du Parti National écossais, et qui est devenu, depuis le mars 2023, le Premier ministre de l'Écosse.
Hamza Yousaf, on dit toujours qu'il est d'origine indo-pakistanaise. En fait, c'est plus compliqué que ça, et c'est très intéressant. En fait, sa famille a émigré du Punjab, mais avec un détour par le Kenya. Et il est en situation, enfin, en tout cas, ses parents étaient en situation d'être en double diaspora, c'est-à-dire qu'ils étaient deux déplacé. Et il y a une histoire migratoire qui forcément informe son parcours politique actuel. Même si lui, il est né à Glasgow, il est 100% écossais. Et en même temps, il a cette histoire de déplacement du Pakistan vers le Kenya et du Kenya vers l'Angleterre. C'est des histoires de discrimination, d'opportunités économiques. Donc c'est déjà, il arrive avec cette histoire déjà très riche. C'est pas juste un Pakistanais ou un Indo-Pakistanais versus un Indien côté à Londres, quoi, côté anglais. Ça c'est assez important, mais c'est vrai que on n'est pas prêt en France d'avoir un premier ministre d'origine algérienne, je crois. C'est vrai que dans les années 60, il y avait le BNP, le parti raciste d'extrême droite britannique qui a beaucoup soudé les gens. Et puis dans les années 80, il y a eu cette identité en Angleterre. On se disait pas South Asian comme aujourd'hui, ou Indian ou Pakistan, et on se disait black. Il y avait ce label Black qui servait à unir dans son espèce de front antiraciste tous les gens victimes de discrimination qui viennent d'Ouganda ou d'Inde ou du Pakistan. Donc ça, c'est vrai que ça a été quelque chose, une forme d'unité face à la discrimination très forte. Mais ensuite, au sein des communautés sud-asiatiques, il y a des forts clivages religieux, de caste, mais aussi historiques. Les gens qui sont venus au Royaume-Uni via le Kenya et l'Ouganda, enfin via, je parle pas d'une escale, hein, mais souvent de décennies passées sur place, et ils ont été chassés par Kenyatta, par Amin Dada, par etc. Ils ont été chassés et ils ont été accueillis à contre-cœur par les Britanniques. Et eux n'ont pas été non plus accueillis pleinement, d'égal à égal, par les communautés sud-asiatiques déjà présentes.
Pendant la visioconférence sur l'actualité en Inde, organisée par les Amis du Monde Diplomatique, un intervenant a demandé quelle était la position de l'Inde dans le conflit russo-ukrainien. La journaliste Ingrid Terwan lui répond.
En fait, l'Inde veut s'inscrire dans une démarche très multipolaire. C'est-à-dire que l'Inde ne veut pas, enfin, finalement continue plus exactement avec sa tradition de non-alignement. Demi-non-alignement, si on veut, hein, parce qu'ils sont quand même du côté plutôt occidental. Mais avec une volonté quand même de ne pas faire allégeance complètement aux États-Unis et à l'Union européenne. Donc, l'Inde continue à avoir ses liens historiques très forts avec la Russie, est très prudente justement sur le dossier ukrainien, voilà. Et pour la Chine, alors l'Inde et la Chine sont des grands rivaux, sur le plan commercial, mais aussi, surtout, sur le plan stratégique. Et il faut rappeler qu'il y a des affrontements, hein, notamment au Cachemire, tous les ans. Voilà, je vois le signe. Ça, je crois, ça veut dire Himalaya. Mais c'est ça, exactement. Dans l'Himalaya, c'est la guerre la plus haute du monde. C'est une guerre, c'est des conflits, c'est des escarmouches, ça dépend des années. Mais donc, c'est l'un des rivales, une adversaire de la Chine, mais aussi un partenaire commercial. Voilà, donc ça c'est pour le monde multipolaire envisagé par Delhi. Et pour nous, l'Union européenne, les États-Unis, etc., c'est d'autant plus important que d'avoir l'Inde de son côté. Et ensuite, je vois une question sur combien d'hindous il y a en Grande-Bretagne et est-ce qu'ils veulent mener un djihad en Europe. Alors, il y a de mémoire, selon le dernier recensement qui date d'il y a pas très longtemps, à peu près 1 million d'hindous en Grande-Bretagne, dont un tiers est né en Grande-Bretagne. Donc ça veut dire que les deux tiers sont des hindous qui viennent de l'étranger, principalement de l'Inde, mais aussi d'autres pays. Ça peut être l'Afrique de l'Est, ça peut être le Suriname, ça peut être l'Asie du Sud-Est, mais le gros, ça sera l'Inde, évidemment. Et le reste sont des gens hindous, de confession hindoue, mais nés en Grande-Bretagne, donc pour l'immense majorité des gens d'origine sud-asiatique. Donc de la deuxième, troisième, quatrième génération. Et est-ce qu'il y a une volonté de mener le djihad? Et par djihad, j'imagine que Pascal entend une espèce de guerre de conversion et de terreur? Absolument pas. Rassurez-vous, les hindous, il n'y a pas d'entreprise de djihad, il n'y a pas l'équivalent. Parce que les hindous ne veulent pas convertir particulièrement, et ils veulent empêcher les conversions à d'autres religions, en Inde notamment, ils veulent empêcher les mariages mixtes, etc. Mais il ne s'agit pas, dans les pays européens par exemple, de vouloir faire du prosélytisme religieux, ni des actions violentes visant la terreur de la population générale.
Une autre question a été posée à la journaliste Ingrid Terwat. Est-ce que la communauté sikh est bien acceptée en Inde?
Ah ben, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce que justement il y a une actualité qui concerne les sikhs en ce moment. Alors, ce qui est intéressant, comment se situe la minorité sikh? Sans doute par rapport aux nationalistes hindous, c'est ça j'imagine, et par rapport au gouvernement. Alors ce qui est intéressant, c'est que pas du point de vue sikh, mais du point de vue des nationalistes hindous, les sikhs sont hindous. Du point de vue sikh, eux-mêmes ne sont pas hindous, ils sont sikhs. Mais du point de vue de l'hindoutva, les sikhs sont hindous. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une religion du sol, et ils font la différence entre les religions endogènes et les religions exogènes. Donc, le bouddhisme et le sikhisme sont, pour les tenants du nationalisme hindou, des religions hindoues et assimilées hindoues, tandis que le christianisme et l'islam sont des religions étrangères et importées et, entre guillemets, imposées. Donc, il y a plutôt une bienveillance, on va dire, des nationalistes hindous pour les sikhs. Voilà. Vous avez des sikhs membres du BJP, vous avez des... Voilà. Et vous avez aussi des sikhs membres de tous les partis politiques, à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... En fait, l'endroit où se trouve le plus de sikhs, c'est le Punjab, qui est le berceau du sikhisme, qui est une religion relativement récente, qui a quelques siècles. Mais voilà, c'est se trouve au Punjab. Et il y a un mouvement séparatiste sikh qui existe, et le leader, un des leaders séparatistes sikh inquiète beaucoup le gouvernement actuellement.
Et voici encore une question posée par les participants de la visioconférence sur l'actualité de l'Inde organisée par les Amis du Monde Diplomatique. Elle est la suivante. Que fait le gouvernement indien pour lutter contre la pollution et quel impact a le changement climatique sur la population en Inde ?
Delhi est une des villes les plus polluées du monde. Il y a pas mal de facteurs qui expliquent ça. Il y a la circulation automobile, évidemment, les usines, mais aussi le fait que Delhi est dans une cuvette et l'Himalaya bloque hein, le vent, grosso modo. Et par ailleurs, il y a des pratiques de brûlis des terres agricoles, parce que Delhi est entourée de terres agricoles, et les paysans souvent brûlent les terres pour fertiliser. Et donc tout ça génère un smog, une espèce de, notamment au mois de janvier-février, et par ailleurs toute l'année une pollution atmosphérique très très importante. C'est devenu proprement invivable, à la limite du vivable, en tout cas tout à fait nocif. Le taux d'asthmatique en 20 ans a bondi. Énormément de gens, notamment d'enfants, ont des problèmes respiratoires très très graves, et il y a un vrai scandale qui est celui du commerce des purificateurs d'air, parce que on n'est pas obligé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens hein, d'avoir des purificateurs d'air, mais dès qu'on le peut, on le souhaite, disons. Enfin, en tout cas, on essaie de s'en procurer, et il y a vraiment un marché très lucratif des purificateurs d'air sur le dos de la santé des gens, au fond. Hein. On utilise des risques sanitaires incroyables pour se faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est assez choquant. Et par ailleurs, il y a quand même une incurie des pouvoirs publics. Alors que la situation s'était quand même améliorée à un moment, il y a une vingtaine d'années, avec le passage au véhicule à gaz, les bus, etc., les rickshaws, les petits tuk-tuk. Et donc, ça avait un temps un peu réduit la pollution. Et puis, comme il y a... En fait, l'urbanisme est un urbanisme qui ne pense que à la voiture. On a construit des flyovers, on construit des routes qui se mettent les unes sur les autres, et qu'il y a un rêve de voiture individuelle, etc. Plus les usines, évidemment. Plus la clim, plus tout ça, les choses ont empiré. En tout cas, les températures sont très élevées, c'est vrai, on n'est qu'au mois de mars. Ça va être de pire en pire, hein, jusqu'à la mousson, c'est-à-dire ça va être de pire en pire avec des pics au mois de mai, vraisemblablement. Après, je suis pas météorologue, et puis avec le changement climatique, ça devient difficile à prévoir, mais c'est grosso modo ça, hein, le calendrier. Les températures montent jusque fin mai, début juin. Hélas, l'année dernière, c'est vraiment le Pakistan qui a le plus souffert, avec d'une part des inondations, des sécheresses, donc assèchement des sols, affaissement, inondations parce que le sol ne peut plus absorber, puis des températures allant dans certains endroits jusqu'à 55 degrés. Donc on meurt. Et c'est un gros problème, oui, c'est un très très gros problème, c'est un gros problème pour tout le monde. Hein. Et évidemment, qui meurt et qui souffre le plus, c'est les plus pauvres. Parce que on a vraiment une... Là, on voit en Inde, au Pakistan, que ce sont les plus démunis qui souffrent en premier du changement climatique, évidemment. Et des problèmes, c'est le changement climatique, mais c'est aussi des problèmes politiques, hein, d'accès à l'eau, de développement d'infrastructures. Alors, il y a des gens, parce qu'il y a quand même des gens qui essaient de faire des choses. Par exemple, on essaie de réhabiliter les systèmes de climatisation, de rafraîchissement des maisons traditionnelles. En Iran, au Pakistan, en Inde, il y a une histoire de l'architecture. Il y a des techniques ancestrales pour rafraîchir les bâtiments. Donc c'est en train d'être mis au goût du jour, ainsi que des techniques de construction. Voilà, on essaie de faire ça.
Ashes of a girl, if not sacred. When the embers are cradled by the wind, do the gods cry for what could have been? If it is cruel hands that have taken a life, why then do we forget the injustice? Instead, let us collect as sisters in mourning. Let our fury echo through the pages of history. Do not let this death be quiet, like all the thousands before it. Time cannot devour what we will not allow to be forgotten. So do not forget her name. Remember her. Remember every girl like her who was lost to us. Every girl who prayed to a god that abandoned her. Call your rage something holy. Call it the best incarnation you have ever known. Make the goddess of justice we all deserve. The kind of divinity we can all truly believe in. Carve a temple made of a fire which never dies until we are all safe. wind take these embers, these ashes, and build a goddess of wildfire in her name.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un long morceau de musique d'Anouska Sankar. Ce morceau parle du viol de l'étudiante en kinésithérapie Jyoti Singh, âgée de 23 ans, qui a été violée par 6 hommes dans un autobus de New Delhi le 16 décembre 2012. Cette affaire de viol collectif provoque un débat exceptionnel sur les conditions de la femme en Inde. Après la mort de Jyoti Singh, des manifestations exceptionnelles ont eu lieu dans toute l'Inde. La musicienne Anouska Sankar a participé à la campagne contre les violences faites aux femmes et elle a témoigné dans une vidéo qu'elle avait été elle-même abusée sexuellement pendant plusieurs années par un ami de sa famille durant son enfance. Alors, quand il s'agit de dénoncer les violences, les Indiens se mobilisent. Dernièrement, la révolte des paysans contre le gouvernement a été très importante. Et une question a été posée à Ingrid Therwaat. Est-ce que les paysans ont gagné ?
A-t-il vraiment gagné ? Pour l'instant, en tout cas, le gouvernement a retiré sa mesure. C'était en 2019, si je ne me trompe pas, 2020. Le gouvernement indien voulait, pour faire très rapidement, privatiser des grands pans de l'agriculture indienne qui est toujours principalement constituée de petites exploitations et de maintenues par des petits exploitants. Donc, les mesures qui étaient proposées allaient vraiment favoriser la constitution de grands conglomérats agro-industriels. Sachant qu'il y avait déjà eu la révolution verte dans les années 70 avec l'intensification de l'agriculture, etc. Et là, les petits paysans se retrouvaient vraiment très, très, très embêtés, révoltés même, parce que sur le plan économique, c'était la fin pour eux. Donc, il y a eu des grandes mobilisations, des grandes manifestations. C'était très intéressant à suivre. D'ailleurs, ça montrait quand même la vitalité de la démocratie d'une certaine façon, en tout cas de la société civile, parce que autant on peut dire que c'est une démocratie, autant la société civile est extrêmement active, avec un maillage associatif incroyable et une culture de la résistance. Peut-être un peu comme en France d'ailleurs. Et en tout cas, ils ont réussi à la mobilisation, hein, parce qu'ils ont tenu pendant des mois, avec des grèves, des sit-ins, etc., à obtenir le retrait du texte. Ce qui me, je souris parce que j'essaie d'imaginer un scénario similaire en France et je suis pas sûre, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Après, le gouvernement indien actuel, c'est à la fois un gouvernement populiste et un gouvernement qui est quand même au service des grands intérêts industriels. Narendra Modi a été soutenu sur le plan électoral et politique par des grands financiers. Il y a Adani, mais il y a aussi Ambani, qui sont des barons de l'industrie. Et son gouvernement fait tout pour leur envoyer l'ascenseur. Donc Adani, notamment, a été mis en cause récemment dans une grande affaire de corruption qui touche, qui a des répercussions avec toutes les entreprises étrangères qui avaient pris des intérêts dans ces entreprises, notamment Total. Mais voilà, il y a vraiment, c'est à la fois un gouvernement populiste et ultra-libéral. Donc, les paysans feraient bien et ont raison. Hein, j'ai pas de conseil à leur donner, ils le font très bien. Ils se méfient de ce qui peut leur tomber dessus.
Au terme de notre émission sur l'actualité de l'Inde, je remercie particulièrement la journaliste Ingrid Terwatt. Je rappelle qu'elle est responsable de l'Asie du Sud au sein de la rédaction du journal Courrier International, qu'elle est également chroniqueuse régulière sur France 24 et qu'elle enseigne le journalisme à Sciences Po Paris. Ingrid Terwatt est également coprésidente de l'Association des journalistes LGBT et elle est engagée pour les droits des femmes et des minorités sexuelles. Je remercie également les amis du monde diplomatique qui ont organisé cette visioconférence du 29 mars 2023 qui nous a servi à faire notre émission Civis Pacem. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
J'ai lu ta lettre. Elle m'a émue, émerveillée. Et j'ai bien cru te reconnaître, je ne sais pas. Bien qui tu es, du même bois, nous semblons faits. Je suis Alice, je ne marchande, ni ne déguise, ni ne corromps, ni ne me vends. Comme toi je vais au fil du temps, comme toi j'aimerais ce pouvoir de tendre parfois le miroir. Tout comme toi, incorrigible, essayant aussi d'être libre, au ventre aussi, la même plaie. Tout comme toi, suis amputé. Je jette mon cri, mon salut, à l'immensité exiguë. Et malgré tout, la vie me pousse, même si je n'entends plus la source. Et comme toi, jamais, 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 je ne m'habituerai à la bêtise et au vacarme. Au travail, à la chaîne, aux larmes, au désert et à l'inertie, à tous ces regards d'eau croupie, ni au sondage, ni au schéma, mes ailes coupées mille fois ont su repousser, mais jamais ne m'habituerai au loto et à la vignette, au supermarché, au parc-mètre. À Hitler, à Mussolini, ou à Staline, inassouvi, à tous les autres fabricants d'un monde amorphe, cruel, grouillant, que je rencontre chaque matin, dans le ciel et sur mon chemin, ainsi ami qui que tu sois, globe-trotteur de l'âme ou encore censeur critique ou fin rusé, ou assoiffé d'humanité, errant, vagabond du savoir, porte-flamme ou porte-miroir, cheminot de fraternité, chanteur, voyageur, solitaire, je mets ma bouteille à la mer, j'ignore ton identité, c'est au fol amoureux de l'été ou au clown amoureux des mots que j'écris avant le chaos. Je t'aime.
sits up, waits for later.
Bonsoir, nous sommes le jeudi 13 avril 2023. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. Ce soir, nous recevons trois femmes parmi 14 à avoir dénoncé des violences sexuelles d'un monument du cinéma français, Gérard Depardieu. Elles sont trois femmes sur ce plateau ce soir, trois parmi 14. Elles ont hésité tant l'homme qu'elles accusent pèse sacrément dans le cinéma français. Cet homme, c'est Gérard Depardieu. Trois femmes sont ce soir sur notre plateau pour témoigner des mauvais comportements que l'acteur français a eu envers elles au cours de tournage. Bonsoir à toutes les trois. Je précise que vous ne vous connaissez pas et que vous vous rencontrez pour la première fois ce soir. Alice Alali, bonsoir et bienvenue. Vous avez 31 ans, vous êtes comédienne et scénariste. Sarah Brooks, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Vous avez 28 ans et vous êtes actrice. Hélène Darras, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Vous avez 42 ans et vous êtes actrice, vous aussi. Et Marine Turki, salut Marine. C'est toi salut qui Valentine. Signe cette enquête en trois volets avec l'appui de Sarah Brett. Vous êtes toutes les deux au pôle enquête de Mediapart. À toutes les trois d'abord, pourquoi avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir? C'est une chose de témoigner dans un article écrit, c'en est une autre de franchir le cap de l'image. Qui commence? Sarah.
Moi, déjà, je suis venue ici parce que je savais que je voulais témoigner, parce que c'est un comportement qui est intolérable et c'est pas possible, en fait, de continuer comme ça. J'ai beaucoup hésité à donner mon nom, même à venir ici. J'avais peur qu'il y ait des répercussions, j'avais peur que... J'ai toujours peur, d'ailleurs, que de la suite, en fait, de ce que ça va donner... Pardon,
ça commence bien. On sent votre émotion et finalement cette émotion est la meilleure réponse à ma question. On va vous laisser reprendre vos esprits.
Merci.
Alice, peut-être commençons avec vous. Enfin, plutôt, peut-être dites-nous pourquoi vous avez accepté de venir ce soir.
Je me dis, si j'ai une fille qui est actrice, j'aimerais pas qu'elle croise un Gérard Depardieu parce que il y a possibilité en fait que ce genre de personnage puisse acquérir ce niveau de pouvoir et puisse se permettre ce genre de choses si il y a pas des gens comme nous qui disent que ça suffit et que c'est plus le moment en fait. Peut-être que c'était tolérable pour lui dans les années 70, mais les valseuses c'est fini et que voilà, à partir d'aujourd'hui, faut que on prenne conscience que même Gérard Depardieu peut qu'on peut lui dire stop, même lui quoi. Mmh. Voilà.
Hélène Darras.
Moi, je pense que ça me ronge et que je voyais pas l'intérêt de témoigner sans aller jusqu'au bout, en fait. Et que non, j'avais plus envie de me taire et de faire comme si le cinéma français est tout mignon et que tout va bien et que les acteurs sont gentils. Et non, quoi. C'est... ça fait peur parce qu'on donne son nom, on montre son visage et tout, mais je sais pas, j'avais plus envie de me taire, c'est tout.
On va revenir sur les faits et ce qui vous est arrivé à chacune. Mais d'abord, Marine, peut-être un point sur les faits et ce qu'on a révélé dans cette enquête. Donc, ce qu'on savait déjà, c'est que Gérard Depardieu était mis en examen pour viol depuis décembre 2020, dans le cadre d'une enquête après une plainte, celle de l'actrice Charlotte Arnould. Donc ça, c'est des faits qui avaient déjà été révélés par la presse. Est-ce que tu peux résumer ce que tu révèles dans cette nouvelle enquête ?
Oui, depuis la plainte de Charlotte Arnould en 2018, nous, à Mediapart, on a reçu des alertes, des témoignages. On a travaillé pendant des mois et des mois. Et ce qu'on a été en mesure de révéler cette semaine, c'est 13 témoignages de femmes, 13 nouveaux témoignages, beaucoup de témoignages aussi de témoins sur les tournages qui racontent la même chose sur des tournages qui ont lieu entre les années 2000 et 2022. Ce sont des films qui sont sortis entre 2004 et 2022. Donc, sur 20 années, des gens qui ne se connaissent pas racontent la même chose, à savoir... Des femmes disent avoir subi des mains dans leurs culottes, ou sur leurs fesses, leurs entrejambes, leurs poitrines, ou des propos sexuels obscènes répétés sur les tournages, ou des grognements insistants d'animaux en rut, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout, mais il y a un deuxième élément dans ces témoignages, c'est les réactions et l'absence de réaction, on va en reparler tout à l'heure, sur les tournages, lorsque il y a eu ces violences qu'elles dénoncent, ces agressions qu'elles dénoncent, c'est-à-dire des rires gênés, des rires des gens qui tournent en dérision ces témoignages, des gens qui détournent le regard, et puis pour celles qui se sont plaintes, qui ont été en mesure de se plaindre sur les tournages, elles se sont vues répondre « ça va, c'est Gérard, c'est Depardieu, qu'est-ce que tu croyais ?» Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre enquête, et puis il y a un deuxième volet qu'on explorera peut-être tout à l'heure, c'est la complaisance dont bénéficie finalement Gérard Depardieu dans les médias, dans le monde du cinéma. Donc c'est un peu ces deux volets-là, et puis ces 13 témoignages, ils sont nouveaux, ils viennent pour certains nourrir d'ailleurs la procédure de Charlotte Arnould, on en reparlera tout à l'heure.
Je précise que Gérard Depardieu, bien évidemment, a été sollicité. Il n'a pas souhaité te rencontrer ni répondre à tes questions écrites, mais il a fait savoir par ses avocats qu'il démentait tout comportement pénalement répréhensible, et pour les faits qui sont judiciarisés, il bénéficie de la présomption d'innocence. On l'a également sollicité par le biais de ses avocats pour être également invité sur notre plateau dans les mêmes conditions que vous, et il n'a pas, à ce stade, répondu à notre invitation. Alice, après Charlotte Arnould, vous êtes la deuxième à nous contacter. C'est en novembre 2018. Vous nous contactez sur Gérard Depardieu en nous envoyant un mail intitulé « MeToo Depardieu ». Vous l'avez rencontré au cours d'un tournage sur lequel vous étiez mineure. Vous aviez 17 ans. Que s'est-il passé sur ce tournage ?
Donc sur ce tournage, je suis censée jouer la fille de Gérard Depardieu. Je le rencontre sur le plateau, il arrive à la dernière minute pour la prise. Je suis censée jouer sa fille, et quand on me le présente, on me dit « bah voilà, Alice qui va jouer ta fille ». Il dit « ah bah elle a bien poussé ma fille, elle a de jolis petits seins ». Donc moi j'ai jamais vu. Donc on se met à tourner, et pendant les prises et entre chaque prise, il me coince sous son bras, et il met sa main sur ma poitrine. Et j'essaye de me dégager une première fois, une deuxième fois, mais en fait, bah, il me tient, il pèse 240 kilos. Je ne veux pas juger de son poids, mais...
Voilà, il n'a pas le même gabarit que vous.
J'ai l'air d'un moustique à côté, et à chaque fois, en fait, qui me reprend sous son bras et qui m'entraîne pour faire la scène, puisqu'on descend un escalier, c'est la même chose, il me caresse le sein. Voilà. Et devant tout le monde, quoi. Donc moi, au début, je suis gênée, un peu paralysée. Je me dis, tiens, il n'y a personne qui voit. Mais au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, tout le monde voit, mais que personne ne fait rien.
Et ça vous quand vous arrivez sur ce tournage à 17 ans, vous avez déjà vécu d'autres tournages ? C'est votre premier ou...
Non, j'ai vécu plein de tournages. J'étais régulièrement comédienne sur des tout petits projets, sur des choses un peu plus importantes.
Et c'est la première fois que ce genre de choses
m'arrivait. Et aussi, c'est l'ambiance très sexuelle qu'il a installée sur le plateau tout de suite. Il fait des blagues sur les tampons de l'autre actrice. Il n'arrête pas de faire des blagues sexuelles partout. Donc, ça instaure vraiment le personnage. Et on se dit, ah oui, d'accord, c'est pas Cyrano de Bergerac, quoi. C'est...
Parce que vous étiez fan de lui, c'est ce que vous m'avez raconté.
Ouais, tout à fait. Ouais, moi, j'arrive, je suis fan. Je m'attends à lui dire, ah, j'adore Cyrano de Bergerac, je connais tout le film par cœur. Mais en fait, non, il me rappelle bien ma place, que je suis un petit objet sexuel à côté et qu'il peut me caresser les seins. Voilà, c'est ça qu'il peut faire. Et c'est toute l'interaction qu'on aura, quoi.
Et d'après vous, les gens qui étaient sur le plateau de ce tournage ont vu ce qui s'était passé ?
On est devant une caméra, on est filmé par deux caméras, en plan moyen. Donc a priori, on est cadré dans ce moment-là. Donc ça me paraît évident que c'était visible. Après, ce qu'on veut voir et ce qu'on voit, c'est différent. Quoi.
Mais les propos sexuels, eux, étaient entendus les gens du tournage.
Complètement, oui. Mais ça, c'est drôle. Enfin, l'ambiance en général, c'est que tout le monde rigole quand il arrive et qu'il dit à l'autre actrice « Fais attention, tu vas perdre ton tampax ». Éclat de rire général, c'est vraiment plus ce côté-là, quoi.
Et quand on entend ces éclats de rire, cet éclat de rire général, face à des faits qui vous choquent et vous dérangent, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce que vous réussissez à dire quelque chose, ou c'est du coup cette situation, cette atmosphère fait que on peut rien dire ?
Non, on peut rien dire, puisque ça a l'air si normal et que tout le monde est absolument pas choqué. Non, tu peux rien dire. Et non, voilà, c'est impossible.
Et lors du déjeuner, il fera une allusion, Gérard Depardieu, à ce qui s'est passé dans cette scène.
Ah, complètement. Ensuite, on mange un peu en décalé parce qu'il y a du retard. Et je suis face à lui. Et donc moi, je me dis, ah, bah, peut-être que quand même, mes répliques de Cyrano, je vais pouvoir les sortir. Et puis là, il me dit, non mais toi, c'est bien parce que j'ai vu que tu m'as regardé et puis tu t'es laissé faire. Et c'est vrai que j'ai essayé de me dégager au début. Mais qu'après, j'ai renoncé, quoi. Je pouvais rien faire. Et du coup, il note vraiment le fait qu'il a fait ça et qu'il a vu que je m'étais laissé faire et que c'est bien. Il me fait même un compliment en me disant « C'est bien, tu t'es laissé faire. » Un côté très... voilà, enfin, il a noté en plus qu'il avait cette emprise-là sur moi, quoi.
Sarah Brooks, vous avez écrit à Mediapart après l'enquête sur Adèle Haenel en 2019. Vous avez tourné avec Gérard Depardieu sur la série Marseille en 2015. Vous aviez 20 ans à ce moment-là. Une photo d'équipe est prise un jour de tournage qu'on voit là. C'est celle-ci. Vous êtes au centre de la photo. Qu'est-ce qui se passe pendant cette photo, cette séance photo ?
Alors, déjà, le cadre un peu... Moi, j'avais un costume, comme on le voit sur la photo, qui était assez court. J'avais un décolleté, j'avais un short, des gros talons. On était en novembre. Bon, moi, c'est comme ça, c'est les tournages, quoi. Mais j'étais pas très à l'aise. C'était mon premier tournage aussi, il faut noter. C'était assez fou pour moi de me retrouver là. C'était une production Netflix, donc c'était énorme. Il y avait Gérard Depardieu, il y avait Benoît Magimel. Enfin, j'étais complètement impressionnée, quoi. Et donc, on tourne cette scène dans un stade de foot à Marseille. Donc on avait
des figurants. Parler de votre personnage aussi.
Oui, c'était une Lolita. On me l'a
sans prénom.
Non, elle s'appelait jeune fille blonde Cossini. Cossini, c'était mon
personnage masculin.
Ouais. Voilà, mon personnage masculin, mon mari dans le truc, quoi. Donc déjà, voilà. Et en fait, déjà, j'étais pas à l'aise de la tenue, mais ça, c'est pas grave. J'avais pas encore l'habitude, quoi. Il y avait des figurants qui étaient toute une équipe de jeunes garçons de 14 à 17 peut-être qui faisaient le... Donc toute l'ambiance, j'étais pas très à l'aise de base. Et en fait, il y a un moment donné, il y avait beaucoup de gens qui avaient vu qu'il y avait Depardieu et tout. Et du coup, le public voulait faire des photos, quoi. Et le réalisateur Florent Siri a dit bon, bah, ok, là, c'est la pause, vous pouvez faire des photos.
Thomas Gilou, sur cet épisode, c'était Thomas Gilou.
Thomas Gilou. Mm-hmm. Il y avait Thomas Gilou et Florent Siri, mm-hmm. C'est pour ça. C'est Florent Siri qui m'a présenté Depardieu la première fois. Et ça s'est très bien passé, il a été très gentil avec moi. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait des compliments, il m'a pris les mains et tout. J'étais contente parce que ben, c'est Depardieu, j'étais tellement impressionnée de le voir et tout. Et du coup, j'avais baissé ma garde aussi par rapport à lui, vu que la première fois que je l'avais vu, ça s'était bien passé. Et donc la deuxième fois, donc le réalisateur dit « Allez-y, faites vos photos et tout ». Ils mettent donc nous, les quatre comédiens, à côté. Moi, j'étais au milieu. Depardieu était à côté de moi. Et en fait, il commence à faire des espèces de grognements. Et je me dis « Mais ok, bizarre, enfin, très étrange, mais j'ai pas fait plus attention que ça ». Et je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois, et du coup je verbalise, je dis « il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short ». Et en fait, il m'a répondu « bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ». Donc déjà, et tout le monde a rigolé, encore une fois, moi je suis partie en pleurant, quoi, et... C'était ça.
Donc en fait, vous lui retirez la main deux fois et vous verbalisez pour qu'il se passe quelque chose. Donc vous alertez en fait, haut
oui.
et fort.
Oui, c'était pas
et
normal.
Et la réaction mais... est pas à la hauteur de ce que vous attendez.
En fait, tout le monde le prend comme une blague parce que tout le monde attend d'être diverti par lui. Parce que c'est tellement un personnage important et que tout le monde le connaît et tout ça. Et je pense que tout le monde est tellement content de le voir que du coup, il est marrant, il est comme ça. J'ai pas à me plaindre, quoi. Et voilà, il y a quelques comédiens qui m'ont aidé après, qui m'ont ramené dans les loges, quoi, et c'est tout. Et
voilà. Vous en gardez un
très bon souvenir.
Hélène, vous avez travaillé sur le film Disco en 2007, vous aviez 26 ans au moment des faits, c'est donc là que vous avez rencontré Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Moi, c'est ma deuxième figure. C'est ma première grande figure. Je suis en école de théâtre. Et j'ai 15 jours sur le film Disco. Donc, je suis super contente.